Mardi 24 avril 2012, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde pour cette dernière émission officielle de l'aérospatiale de la saison. On discute notamment de... Des ratés sympathiques font de l'art une initiative de Catherine-Ève Gadoury et Gaël Généreux, donc qui ont invité des journalistes à créer des œuvres d'art qui seront critiquées par des artistes professionnels. Donc, on les recevra pour discuter de la chose. Puis, on aura aussi l'occasion d'avoir en direct une critique d'Alain Martin... Alain Martin-Richard, pardon, qui critiquera l'œuvre de Mathieu Dugal, donc en direct de l'aérospatiale. On verra qu'est-ce que ça donne quand les rôles sont inversés, comment l'artiste ou comment le journaliste reçoit la critique de son œuvre également. Fanny Hénon-Lévy viendra nous parler du spectacle de l'Orchestre de l'Orchestre Kurt Weill, Cabaret Brisejour et autres manivelles qui est présenté au Périscope. Puis Raymond Poirier nous fera sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Est-ce que ça va bien dans le monde des arts visuels?
Pas nécessairement, on brûle l'étoile.
Oh!
On va en parler tout à l'heure.
Voilà, donc on nous tend une carotte et puis on discute aussi avec Simon Roy qui va nous présenter sa sélection audio. Bonjour.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Oui, ça va bien.
J'ai trouvé quelque chose de spécial cette semaine, Julie. Je vais t'avouer que j'ai choisi la section musicale juste à cause du nom du groupe.
Ouais, hein?
J'imagine. Ben oui, c'est le groupe Florida Equals Death. Donc, la Floride égale la mort. Un titre vraiment évocateur. C'est leur album Tape Made of Tapes. J'ai la difficulté à décrire qu'est-ce que ça pourrait être. Un peu une attitude punk, no wave, mais vraiment extrêmement expérimentale. Un album studio, donc on dirait qu'ils enregistrent leur prestation en studio, puis ils rejouent par-dessus leurs enregistrements. Donc, il y a un peu de sorte de source audio de prix un peu partout. Puis, ils mixent tout ça, ça fait un drôle de mélange. Musique électronique par bout, donc un album vraiment spécial à découvrir.
En fait, par moment, je l'ai écouté souvent, puis il y a des petits bouts qui m'ont fait penser au Residence.
Oui, exactement. Ça part vraiment dans tous les sens. On sent vraiment le travail de studio. Puis la deuxième partie de l'album, les deux dernières pièces, c'est plus des concerts live, des fragments de performances radio. Donc c'est ça. C'est un album vraiment intéressant par Florida Equals Death. C'est publié sur Pani Rosas Disco, une étiquette qui nous vient de Chicago. Le groupe, j'ai pas réussi à trouver ils viennent du Connecticut. C'est un album qui a été paru en 2010.
Ben Simon Roy, merci beaucoup.
Ben merci.
Puis on t'écoute dimanche dès 20h à Web Musique.
Oui, un spécial 2 heures cette semaine, donc on s'en met plein la tronche de bonne musique gratuite.
Et voilà, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On écoute tout de suite un extrait de Tape Made of Tapes, la pièce Side A Part 1 sur les ondes de CKRL.
If the buzz is as good as this martini, we're in trouble, because that's for Manhattan. For Manhattan, and I got a martini. Thank you.
C'était un extrait de Florida Equals Death, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit des suggestions de Simon sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Bref, toute l'émission est disponible en balado-diffusion. Également, si vous voulez tout simplement passer par le site de ckrl.qc.ca, ben CKRL s'est mis à la page et offre maintenant aussi la balado-diffusion. Alors voilà, et sur ce, je cède la parole à Raymond Poirier qui nous dit qu'on met le feu à des œuvres.
On met
en
le feu
Italie.
À des œuvres. En Italie, exactement. Feu au musée d'art contemporain de Caesarea. Donc, le CAM, c'est tout près de Naples, dans le sud de l'Italie. Donc, le fondateur et directeur de ce musée-là, monsieur Antonio Manfredi, brûle pratiquement chaque jour, en fait, une œuvre pour protester contre la réduction du financement public. Donc, il dit, regardez, j'ai à peu près 1000 œuvres dans ma collection, mais je suis prêt à les brûler. Sur un peu la logique que, ben, si on ne finance pas les musées, ben, au bout du compte, ça revient un peu au même que de cacher les œuvres, que de les détruire. Donc, l'effet est direct et similaire. Lui, il est désespéré, évidemment, par les coupes budgétaires qui touchent le secteur de la culture.
Surtout qu'en Italie, ça va vraiment pas bien.
Ça va vraiment pas bien. Et il y a des journalistes qui ont demandé, ben, en lumière de ça, pourquoi pas vous tourner vers de l'argent privé? Il a dit, ben, regardez, dans la région, c'est la mafia italienne qui est implantée dans la ville. Je peux pas accepter de l'argent comme ça pour financer de l'art. Ça serait pas moral. On peut pas garantir que l'argent privé est propre à 100%. Alors, ce qui l'amène à refuser donc cette perspective-là. Parallèlement, donc, il décide de faire pression, donc, en brûlant des œuvres pour sensibiliser face à cette réalité-là le gouvernement italien. L'État italien ne consacre, en fait, globalement que 0,21% de son budget à la culture. C'est quand même pas énorme, surtout considérant que le pays assure abriter la moitié du patrimoine culturel mondial. La situation ne va pas en s'améliorant non plus. Donc, le musée dont il est question ici n'est pas le seul à avoir de la difficulté. Il y en a d'autres, notamment, on pense au Maxi à Rome, le musée d'art contemporain, qui est criblé de dettes. En fait, il y a 43% de ses subventions qui ont été retirées. Il a été mis en tutelle. Donc, même les gros musées ne vont pas bien. Alors, pour le conservateur, c'est une situation qui est carrément inacceptable. Ouais. Donc, il faut protester. Et en plus, ça fait des émules aussi. L'action, notamment, a eu un écho au Pays de Galles où le sculpteur John Brown a brûlé une de ses œuvres il y a quelque temps pour montrer son soutien. Donc, c'est intéressant comme démarche, comme propos. La question, évidemment, c'est les artistes aussi.
Ben oui, parce que les artistes, j'ai lu cet article-là, puis au moins, ça, on précise quand même qu'il y a des artistes qui ont accepté là, que leurs œuvres se fassent brûler, parce que sinon, c'est quand même particulier.
Oui, d'ailleurs, en fait, je suis tombé sur le blog d'une des artistes dont l'œuvre a été brûlée. En fait, la première dont l'œuvre a été brûlée, qui s'appelle, voyons, je perds le nom, une artiste française, Séverine Bourguignon, et elle dit justement s'être fait appeler en disant, ben, regardez, j'étais au courant de la situation, est-ce que tu accepterais d'être la première artiste à brûler une œuvre? L'artiste a demandé à pouvoir réfléchir, le commissaire, en fait le directeur du musée lui a dit, ben regarde, moi faut que je donne le nom de l'artiste, le nom et le format de l'œuvre au plus vite, tu as 45 minutes pour y penser, décide rapidement. Finalement, elle a décidé d'accepter de faire brûler son œuvre et elle justifie dans son blog aussi pourquoi elle a accepté de faire ce geste-là. Je t'en lis quelques extraits. Ça donne une bonne idée de la teneur du débat et de l'orientation qu'on voudrait donner à ce débat-là également. Donc, elle dit, je cite, « Les artistes ont peu l'occasion de s'exprimer et d'ailleurs, comment protester pour faire valoir nos revendications? Une manifestation? Une grève? En France, les artistes vivent pour la plupart en dessous du seuil de la pauvreté. Nous n'avons pas la stature pour faire du lobbying ou un quelconque poids financier. Il nous reste le droit de détruire nos œuvres, la propriété morale. Je serais heureuse qu'en entendant parler de cet événement, des citoyens prennent le temps de la réflexion. Accepteraient-ils ou pas de brûler une de leurs créations sur l'autel de la culture? Ou encore, à quoi sert la culture? Que devient une société lorsqu'il n'y a pas d'art, d'éducation, de culture? En cette période cruciale d'élection présidentielle en France, je pense qu'un débat s'impose. Aujourd'hui, c'est quoi une politique culturelle? Quelle est la qualité et l'énergie mise dans les propositions d'action culturelle des candidats? Et elle conclut en disant, de tout ce que je viens d'écrire, il ne faut retenir qu'une chose, c'est que la destruction de mon œuvre en Italie n'est pas une provocation, n'est pas une performance artistique, c'est un acte politique.
Quand même.
à suivre, évidemment. Parallèlement, cela dit, les débats autour des institutions muséales ne se limitent pas non plus qu'à l'Italie en Europe. En Allemagne, c'est une polémique autour d'un brûlot, pourrait-on dire, d'un livre polémique qui suggère essentiellement de fermer la moitié des musées du pays. Et tout ça, ça engendre un débat assez important aussi sur la culture. Le constat des auteurs de ce livre-là, qui s'appelle L'infarctus culturel, est assez simple. Ils estiment que la culture pour tous, qui a été lancée en Allemagne dans les années 70, c'est essentiellement un échec. Rendu possible grâce à la croissance économique de l'époque, pour eux, la politique aurait entraîné un accroissement considérable des institutions culturelles. On dit qu'il y a essentiellement trop de musées et qu'on n'a plus les moyens de bien faire vivre les musées, de bien leur permettre de prendre plus de place. Et donc, essentiellement, cette politique-là aurait été menée sans réel programme, sans vision long terme, pour se retrouver avec une offre qui est, selon eux, pléthorique, inadaptée, impossible à maintenir à flot en ces temps de crise économique. Alors eux disent, ben, plutôt que de garder tous ces musées-là ouverts, peut-on s'assurer qu'il n'y ait pas duplication des mandats, s'assurer qu'il y ait aussi la variété qu'on souhaite, et aussi permettre de mieux appuyer les diffuseurs culturels plutôt que d'appuyer les musées, en disant, regardez, aujourd'hui, on recherche aussi, pour améliorer la diversité et la qualité de l'art, à appuyer la diffusion. Alors ils parlent de redistribution d'argent aussi autour de ça. Alors c'est la teneur du débat. Évidemment, c'est textes-là se retrouvent sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com, donc ça permet d'aller les explorer un peu plus en détail. Et vous trouverez aussi un autre texte que je lis pas, mais qui se place bien aussi dans les propos. Je trouvais que c'était un bon complément. C'est le Monde, en fait, qui offre un regard sur le marché de l'art, donc du côté des artistes très riches à ateliers, à assistants comme Damien Hirst, avec un parallèle avec l'artiste ordinaire qui, lui, vit au-dessous du seuil de la pauvreté. Donc on essaie de voir un peu comment marche l'économie, comment les artistes sont affectés par la dynamique économique du marché de l'art, entre autres. C'est donc un article assez détaillé, fort intéressant, que je vous recommande, donc en allant, oui, évidemment, sur le blog un peu plus tard aujourd'hui. Et en terminant, petite mention au passage, le Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse et la Fondation Sobeys pour les Arts ont annoncé leur liste préliminaire pour les prix 2012. Il y a 5 artistes québécoises qui ont été retenus, ben, comme 5 artistes de chacune des régions du Canada. Alors, au Québec, c'est Olivia Boudreau, Raphaël de Groot, Julie Favreau, Nadia Mir et Evka Tremblay qui ont été donc retenus pour cette liste préliminaire. Ça veut dire que peut-être qu'il y en aura une de ces 5-là ou plusieurs qui se retrouveront nominées donc dans ces prestigieux prix.
On leur souhaite.
Ben oui.
Raymond Parguet, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On t'écoute vendredi à La Vie en BD.
Oui, et notamment David Surgeon, la muse récursive, qui sera avec nous, donc une BD assez pétée. Disons-le comme ça.
Voilà, à ne pas manquer. Sur ce, on s'en va en pause audio. On écoute Side A, Part 2 sur les ondes de CKRL. Au retour, on discute avec Gaëlle Généreux et Catherine Eve Gadouri. On vient d'entendre un extrait de la pièce Side A Part 2 tirée de l'album Tape Made of Tapes de Florida Equals Death, une suggestion de Simon Roy. Et puis, je suis rejointe en studio par les deux co-créatrices, co-conceptrices des Ratés Sympathiques Fonds de l'art, Catherine-Ève Gadoury.
Bonjour Julie.
Bonjour. Et Gaëlle Généreux.
Bonjour.
Elle s'est présentée à la Galerie Zara à compter de vendredi. Hein. C'est le vernissage. Oui. Le temps file.
Le vernissage est imminent.
Vernissage et encan crié.
Crié. Yeah. Ça, c'est quand même assez... moi, le crier m'impressionne beaucoup. Il faut dire que j'ai soumis, j'ai soumis une œuvre pour les Ratés Sympathiques. Fait que là, j'ai vu encan crier. J'ai dit, oh mon Dieu.
Mais bon, ça, on y va à fond, là, dans toutes les sphères. Ouais. On vit l'expérience au bout.
Exactement. Les filles, dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné d'adapter l'idée des Ratés Sympathiques au domaine des arts visuels?
Ben, c'est ça. C'est un concept qui existait déjà, qui a été... pensé par Sylvain Cormier du Devoir, Alain Chartrand de Coup de cœur francophone à Montréal. Ils ont eu envie, une soirée seulement, de se retrouver sur scène, chanter un peu, pousser la chansonnette et changer de place, donc, avec des artistes qui, eux, se retrouvaient dans la salle avec le crayon, le petit calepin, prenaient des notes pour écrire, produire une critique qui allait être diffusée ensuite dans le média du raté qui était sur scène. Donc ça, ça a eu lieu une fois, j'ai pas la date en tête, mais il me semble que c'était en 2000. On a repris le concept ici à Québec.
Oui, il y a quelques années.
Et il y avait des gens de CKRL, d'ailleurs, je me souviens. J'étais dans la salle, puis j'avais pas pu participer en tant que journaliste à l'expérience. J'étais enceinte et je m'étais dit que ce serait génial d'adapter ça à l'art visuel parce que c'est une discipline qui a pas beaucoup de place, à part ici, Julie, dans ton émission, mais qui a pas beaucoup de place dans les médias. Alors, on s'est dit, ben pourquoi pas? Alors, j'ai contacté Gaëlle, qui, elle, connaît, qui est une artiste en art visuel, travaille en galerie aussi. Donc, à l'époque, elle était à la galerie de Zara. Et c'est là que j'ai demandé, puis on a plongé dans l'aventure.
Voilà. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de place. Bon, souvent, aux arts visuels, c'est parce qu'il y a une méconnaissance, mais il y a comme une crainte aussi hein, des journalistes, comme si les arts visuels, au contraire de la musique, du théâtre, de la littérature, comme si les gens pensaient qu'il fallait avoir des connaissances incommensurables pour apprécier.
C'est vrai.
Au final, est-ce que c'est ce que vous observez?
Tout à fait. Il y a vraiment... Je me l'explique pas, en fait, parce que il y a des gens qui ont aucun background, je sais pas, moi, en musique rock, puis vont y aller quand même, ou avec une ouverture, vont plonger, vont aller voir, découvrir des groupes qu'ils connaissent pas, des styles musicaux qu'ils connaissent pas. Puis pourtant, en art visuel, faire le pas, entrer en galerie, dans un musée, tout ça, des fois, c'est difficile. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est une discipline qui... Souvent, on est seul, en plus, dans les galeries, on vit ça à notre rythme, on prend ce qu'on peut là-dedans. C'est sûr que c'est une discipline avec laquelle on n'est pas en contact très, très jeune non plus. Là. C'est en train de disparaître, malheureusement, de nos écoles primaires.
Oui, c'est pas ancré dans la culture populaire non plus.
Oui, c'est sûr. Si tes parents t'amènent pas, t'as moins de... Oui, c'est moins facile. C'est pas nécessairement l'école qui va t'amener dans une galerie, qui va t'amener au multi. Ou...
Ouais, j'ai une amie, moi, qui vient de vivre une expérience, je peux peut-être en glisser un mot, c'est une enseignante en art plastique. Au primaire, il en reste peu là des spécialistes au primaire. Et les parents se sont regroupés pour proposer d'enseigner la musique plutôt que l'art plastique. Et là, il a dû produire un texte pour prouver l'importance de l'art plastique.
Ah ouais.
Mais en même temps, d'opposer l'art plastique à la musique, tu sais...
C'est un choix tellement déchirant à faire. On devrait pouvoir prendre les deux.
Ouais. Donc, c'est vous dire comment, finalement, des fois, les profs d'art plastique doivent justifier leur travail. Puis
en art visuel, point. Là, ça montre si les profs d'art plastique doivent justifier leur travail, comment l'artiste aussi doit justifier son travail et lutter pour survivre.
Parce que dans la tête des directeurs de cette école-là, c'était facile d'enseigner l'art plastique, de demander à un généraliste, par exemple, de faire un collage, un bricolage, peu importe. Tandis que de demander au généraliste d'enseigner la flûte, c'était pas possible, puisque ça prend des connaissances. Comme si enseigner l'art plastique, ça en prenait pas. Mm-hmm. Donc moi, je trouve que ça dit beaucoup de choses de l'importance qu'on accorde à cette discipline-là.
Et là, vous avez demandé, bon, il y a 14 journalistes qui vont participer. Combien vous en avez approché pour avoir le total de 14?
La plupart ont accepté assez rapidement, disons peut-être une vingtaine.
Oui, peut-être une vingtaine. Au départ, là, on voulait vraiment cibler tous les médias de Québec.
Oui, oui.
Alors, bien sûr, il y avait CKRL, Radio-Can, on a l'impression qu'ils sont un peu initiés. L'art visuel est quand même présent dans ces médias-là. Mm. Mais on voulait aussi aller du côté des radios privées.
Ouais.
Donc, on a fait des efforts. On a appelé Gilles Parent, entre autres, qui a passé un cheveu de faire partie de l'événement, un Stéphane Dupont, un Denis Gravel, etc. Donc, ils ont eu peur, je crois, ou je ne sais pas. comment
ça montre à quel point l'univers est inconnu,
oui.
J'imagine.
Oui, ça vient confirmer. Oui, peut-être qu'il avait peur aussi de se lancer justement dans ce qu'ont découvert finalement. Tu sais, comment on peut appréhender la création, comment on se retrouve face à son œuvre, est-ce qu'on se dit qu'on se lance à fond, qu'est-ce que je vais livrer, jusqu'où je vais me rendre, c'est quoi mon message, j'en ai sur un, où est-ce que je m'arrête, un peu tout ça.
Oui, mais c'est ça. Puis peut-être qu'il avait peur d'être mis en boîte, ou je sais pas. Peut-être qu'il avait peur qu'on leur serve leur propre médecine, ce qui était vraiment pas le cas, là. Ben on avait juste envie de dialoguer avec eux puis donner une place à cette discipline-là, tu sais, qui dans une radio qui est hyper écoutée. Là, on pense à Choix, on pense au 93, donc
ouais, c'est
toucher un autre public,
ouais,
aussi.
On voulait profiter de leur plateforme pour faire créer des ponts. Ouais.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, créer des ponts entre les artistes, les journalistes, amener les journalistes à comprendre un peu plus cette réalité-là.
À se rencontrer aussi dans un événement qui est un peu festif, tu sais. C'est sûr que tout le monde a mis sa charge. Chaque raté, c'est vraiment donné dans son projet, mais au-delà de ça, quand on se retrouve en critique, tout ça, l'idée, c'est pas non plus de démolir l'œuvre de l'autre, c'est plutôt d'essayer de comprendre.
Oui, puis que les artistes aussi comprennent, parce que d'une part, le journaliste doit comprendre la réalité de l'artiste, qui est celle de la création, c'est pas toujours facile. On veut faire des choses, on parvient pas toujours à nos résultats, ou il faut faire preuve d'improvisation, utiliser l'accident, mais l'artiste aussi doit comprendre les contraintes du journaliste, parce que le journaliste arrive pas et dit, ben moi, je vais t'écrire 5 pages, ou je vais en parler pendant
Damien. Faire un petit topo, là, ben intéressant, puncher en 2 minutes. Non, c'est ça.
Mais critiquer, tu sais, on le sait, les formats sont de plus en plus brefs, là, dans tous les médias. Si on pense à la radio, ça raccourcit d'heure en heure, de jour en jour. Tu sais, à l'écrit aussi, il y a de moins en moins de mots. Donc, d'arriver à critiquer dans si peu d'espace, c'est quand même une tâche qui est difficile. Puis c'est un peu la question qu'on va se poser d'ailleurs, parce qu'on a des activités satellites.
Oui, c'est ça, il y a table ronde, conférence.
Ouais, une table ronde qui s'appelle La critique en mutation. Normand Provencher du Soleil va y participer. André Chouinard de Radio-Canada, qui a critiqué longtemps, qui est aujourd'hui réalisateur, va y participer aussi. Marginette Gay, Marginac et Alain Martin-Richard, que vous allez recevoir dans quelques instants. Donc on va vraiment réfléchir à la place de la critique et comment on peut critiquer aujourd'hui.
Jusqu'où on peut aller, comment on s'y prépare, est-ce que le commentaire et pas plus...
Parce que ça change, là, si on regarde... Moi, j'enseigne l'histoire de l'art. Des fois, je donne des exemples de critiques de la fin du 19e siècle à mes étudiants. Puis aujourd'hui, je veux dire, des fois, on tend un peu plus vers le consensus, là, tu sais, vers... pas nécessairement flatter, mais ici, à Québec, bon, le milieu est petit, fait que c'est sûr que c'est...
Ça doit
être assez particulier.
Effectivement, on est vraiment plus critique et souvent avec des œuvres qui viennent de loin. Je pense au cinéma, on se fait un plaisir des fois de démolir un film américain. Disons qu'on est plus nuancé quand le film a été fait au Québec et à Québec encore plus.
Ouais, pour la même valeur de scénario, oui, de jeu, de réalisation. Mm-hmm. Vous organisez aussi une conférence de Françoise,
Hubert.
Ouais. Mm-hmm.
Oui,
ça va être une... En fait, on voulait un petit peu... parler aussi du rapport entre la critique et les artistes, mais à travers le temps. Donc, venir essayer de voir s'il y a déjà eu des lieux communs ou quand les... Comment je pourrais exprimer ça?
Ben, en fait, Françoise Lugard est historienne d'art, parce qu'elle s'intéresse vraiment au conflit, si vous voulez, qui a existé à travers le temps, au 19e, 20e siècle, entre les critiques et les artistes. Alors, des fois, elle a vraiment le titre de sa conférence, c'est le conflit, mais je pense qu'elle va aller beaucoup plus loin que ça. Comment même ça a pu devenir une émulation, ou presque, là. Parfois, le texte est attendu. Tu sais, un artiste peut attendre le texte. Moi, je sais que j'ai entendu Frédéric Dubois dans une autre discipline, au théâtre, qui attendait le texte, la critique le lendemain, le journal, dans le Soleil, entre autres, ou ailleurs, pour voir qu'est-ce que le critique en avait pensé, pour voir. Puis ça lui permettait, lui, d'adapter son travail ensuite. Donc, il y a une sorte de jeu qui existe entre le critique et l'artiste. Et c'est un peu ça. C'est un portrait de ces grandes relations qui ont eu cours, là, à travers le temps. Va nous faire Françoise Lugbert. Ça, c'est le dimanche 29 avril à 14h. Toujours à la Galerie de Zara. Tout se passe là-bas. Là, c'est sur la rue Saint-Paul, proche de la gare du Palais.
Moi, j'ai une question, en fait, parce que, bon, 14 journalistes, 14 artistes ou, bon, couple d'artistes, si vous voulez. Comment vous avez fait les liens entre les artistes, les journalistes?
Ben, on a tenté d'en faire certains par discipline, et puis d'autres, ben, on en a mis certains à l'oral, se disant, peut-être que lui ou elle va se sentir plus à l'aise à l'oral. Certains, on leur a demandé, es-tu plus à l'aise radio, écrit? Il y en a qui ont proposé de se mettre à plusieurs pour écrire à quatre mains ou pour commenter à plusieurs. Donc, on y est allé vraiment un peu à l'instinct, à l'intuition, ce qu'on connaissait d'eux comme journalistes, mais surtout comme artistes.
Ouais.
Pour qu'ils soient à l'aise dans leur critique. pratique. Là.
Puis la première sélection, ça a vraiment été leur compétence en communication. Parce que ça prenait des gens qui sont à l'aise devant une caméra, parce qu'il y a des reportages qui vont se faire live.
Télé, mais ouais, il y a des gens de TVA aussi. Hein.
Et
aussi.
Très court, ouais, c'est ça.
Donc, ça prenait des gens à l'aise en communication, puis on le sait, tu le sais, Julie, tu s'en reçois, là, ici, à chaque semaine. Des artistes en art visuel, il y en a qui sont très, très à l'aise, mais il y en a d'autres, c'est pas leur métier, après mais tout, non. Hein. C'est pas le but, là, d'un artiste en art visuel, c'est pas nécessairement de s'exprimer devant un micro ou une caméra, ou, c'est de s'exprimer avec ses mains, donc, moi, je trouve que des fois, les journalistes, on est dur avec les artistes en art visuel. On leur demande d'être bon devant un micro, d'être à l'aise, mais c'est pas leur métier. Puis c'est peut-être ce qui explique des fois que cette discipline-là passe sous le radar. Je sais pas, là, je lance une hypothèse, mais je me dis que, tu sais, on en croise quelques-uns là, qui sont bons,
ouais.
qui fuient les micros.
Oui, mais c'est ça. C'est pas excusez l'anglicisme, mais c'est pas toujours des fronts.
Non.
Tu sais, des gens qui vont aimer, qui vont vouloir, qui vont le chercher aussi. Tu sais, souvent, il y a des artistes qu'on va entendre en musique, en théâtre, déjà, c'est des gens qui sont à l'aise avec le public et tout, là.
Ben oui, mais le comédien, c'est ça, son premier matériau, c'est sa voix, son corps. Donc, c'est sûr que, déjà, il y a une espèce d'aisance que certains artistes en art visuel n'ont pas. Puis, que les journalistes, c'est des bébites ils courent après les gens flamboyants. Mais je pense qu'on souffre de ça dans nos médias aujourd'hui. On cherche des personnalités avant tout. On recevait, d'ailleurs, samedi dernier, samedi de prendre le temps, l'émission à laquelle je participe, on recevait nos critiques, Catherine Lachaussée et moi, avions nos critiques en onde et on recevait deux BDistes, Francis Desharnais et Philippe Girard. Francis Desharnais nous disait que failli passer à l'émission de Penelope McQuaid, mais il était en duo avec une star là, de Lille là, qui a gagné à Angoulême.
Ben ouais.
Et au dernier moment, Guy de Lille s'est désisté, donc ils ont floché aussi Francis Desharnais. Mais c'est pour vous dire comment finalement on cherche toujours la star, la vedette. Là. Donc c'est malheureux, mais les médias carburent à ça.
Hélas. Catherine F. Gadouri, Gaël Généreux, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Donc, le vernissage, hein, venez en grand nombre, vendredi, dès 18h, c'est à la Galerie de Zara. Sinon, l'exposition, c'est une activité satellite de la Manif d'Arcis, on l'a pas mentionné. Elle est présentée du 27 avril au 6 mai.
Et il y a un site Facebook, est-ce qu'on le dit?
Oui, c'est vrai, c'est, on pourra le mettre aussi sur votre lien avec votre,
ouais, de toute façon, balado de diffusion.
C'est le www.facebook.com/lesratésympathiques avec des lettres majuscules et des S sur les premières lettres.
Voilà. On s'en va en pause et au retour, justement, on accueille la critique de Alain Martin-Richard et Mathieu Dugal aussi, qui va être critiqué directement en ondes.
CKRL est maintenant en balado-diffusion. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble.
Un jour ailleurs.
Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
La balade de l'amour.
Le Studio P accueille les Parfaits Inconnus. Les Parfaits Inconnus, ce sont des gens comme vous et moi, reliés par la parole. Un lieu, une règle, qui permettent aux mots de sortir enfin des tiroirs pour nous rapprocher. Chacun lit ou chante ce qu'il a écrit lui-même et laisse son jugement au vestiaire. Les Parfaits Inconnus, le jeudi 26 avril à 19h30 au Studio P. Contribution suggérée, $5. Information, www.lestudiop.com. Le Studio P, art et littérature en scène.
C'est parti.
Ma boîte à cassettes.
La boîte à cassettes.
Ta boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
C'est Robert Charlebois. J'aimerais bien entendre ta boîte à cassettes. Ça me changerait de la boîte à chansons.
Ma boîte à cassettes. Avec Jean-Philippe Deschênes, les mardis à 20h30.
Boîte à cassettes. De Allman Brothers à Frank Zappa, c'est le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui. Concentré sur une seule fréquence. Tous les mardis dès 22h avec François Thériault et Martin Anger.
Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art.
Journalists tweet, create these long links to, the world is already a big.
Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple, allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement $25, soutenez CKRL financièrement. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat.
CKRL 89A.
Québec.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e avenue Limoilou. Lebaldulezard.com.
Et voilà, de retour à l'aérospatiale, Julie Gagné, toujours avec vous jusqu'à 18h30, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et on reste dans le monde des ratés sympathiques fonds de l'art. D'ailleurs, j'en accueille un en studio, Mathieu Dugal, bonjour.
Un gros raté, salut.
Comment très sympathique aussi.
Et j'accueille aussi Alain Martin Richard, bonjour.
Bonjour.
Là, vous inversez vos rôles aujourd'hui.
Oh,
comment
oui.
vous sentez-vous de part et d'autre?
Ben moi, je me sens extrêmement angoissé. Hey, c'est la première fois que je fais ça dans ma vie, là, d'aller exposer quelque part. Puis là, je me rends vraiment compte qu'est-ce que c'est là, d'arriver avec son œuvre, puis de la sortir, puis de la faire regarder à des gens en premier. Là, c'est extrêmement... Ça demande beaucoup d'humilité à la base, je pense. Puis ça demande aussi beaucoup, quand on l'a fait, cette œuvre-là, je me suis vraiment... je me suis rendu compte qu'est-ce que c'était d'être dans un processus créatif, un processus où on fait des choses, puis on n'est pas sûr, puis on se remet en question, puis on se dévoile aussi beaucoup là-dedans, ne serait-ce qu'à part les choix, les thèmes,
ouais.
Qu'est-ce qu'on emploie. C'est vraiment un processus magnifique.
On se sent vulnérable
à tous les, en tout cas durant toutes les étapes de production, quand on y pense, quand on le fait, quand on le montre, on se sent vulnérable tout le temps. En tout cas, c'est une super bonne idée. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais là, c'est un peu paradoxal. Je pense que moi, j'arrive au moment que j'aime le moins.
Oui, c'est ça. Hein? D'ailleurs, parlant d'y arriver, est-ce qu'on y va de ce pas? Peut-être Alain-Martin Richard, ce serait le temps de faire la critique de l'œuvre de Mathieu qui s'appelle...
Ah, tu veux qu'on y aille direct avec
la
critique?
Aller,
bon,
ben,
écoute,
hein?
D'accord. Ça s'appelle « Le cauchemar de Manuel ».
Je l'ai ici, je vais le sortir de son... Là, c'est la première fois qu'on la voit. C'est beau à radio hein, de sortir une œuvre comme ça. Alors donc, c'est un collage. C'est quoi, 20 par 30 à peu près? Et donc, moi, je suis parti de... En fait, je suis parti de plusieurs questionnements qui m'habitent. Ah, tu voulais y aller, Alain?
Ah,
oui, oui, oui. Mais en fait, je vais peut-être décrire l'œuvre, en fait. C'est un...
Ben, moi, je vais t'en parler de l'œuvre.
OK, ben vas-y.
Ouais, c'est ça, hein. Faut laisser
montre-là,
la place,
bien. Ouais, c'est ça, montre-là,
aller,
c'est bien. Non, je vais t'en parler un peu parce que, par rapport à la création, ce qui est intéressant quand t'es de l'autre côté, c'est de remonter dans, un peu dans la structure ou dans l'inconscient de l'artiste. Et ça, c'est intéressant ici parce que ce qu'on retrouve, moi, je pensais de trouver autre chose que Mathieu Dugal. Finalement, j'ai Mathieu Dugal au complet et on est dans l'univers médiatique.
Ben oui.
Donc, la première chose qui frappe, évidemment, c'est les nombreux visages qui relèvent. Bon, c'est un collage, hein, faut dire, c'est vraiment un collage qu'on peut situer dans la tradition des collages depuis Picasso, Braque et compagnie, surtout en passant par le pop art, où
ouais.
ça a été un outil très utilisé.
Et, hey, méchante filiation, hein?
Ben non, écoute,
je me sens encore plus mal.
Écoute, je regardais un peu, puis je pensais aux merveilleux collages de Jacques Prévert, qui sont dans le monde surréaliste totalement, évidemment.
Mm-hmm.
Puis qui concilie un peu l'univers concret et l'univers onirique. Ici, on n'est pas tellement dans l'univers onirique. Je dirais qu'on est vraiment dans l'univers médiatique. Donc, ce qui frappe, c'est le point central. Ça s'appelle « Le cauchemar de Manuel », mais il y a un texte qui est « Manuel Urtubiz a raté la révolution Twitter ». Et là, tout part de là. Et autour, il y a de nombreux visages très connus qui sont des gens, des médias... Des chanteurs, mais des animateurs, enfin des gens très connus qu'on voit continuellement à la télévision, qu'on entend à la radio. Et tout autour, à travers tout ça, il y a de la bouffe. On a donc ici un phénomène de consommation. Ce que je disais tout de suite, c'est un phénomène de consommation à la fois des médias qui est symbolisé par l'univers ici tout à fait nourricier avec des beaux hamburgers, avec bon quand même des salades, il y a des trucs frais, puis il y a des trucs un peu junk.
Il y a des espèces, il y a des hybrides aussi là-dedans, parce que par exemple, il y a Marie-Lise Pilote qui a un chapeau en smoke meat, ouais, et qui sort d'un hamburger. Et je me suis rendu compte, parce que moi je suis parti de trois revues, moi de quoi les gens parlent dans les médias. Les gens parlent des vedettes. Et moi, je suis parti de trois revues la semaine, le lundi et le 7 jours. Et en feuilletant les revues pour préparer mon collage, je me suis rendu compte qu'il y a presque autant de bouffe que de vedettes. Et on les présente presque de la même manière. Les photos de bouffe sont extrêmement appétissantes, comme le sont les photos de vedettes. Alors, c'est un mélange donc de ces éléments-là.
Alors, le regard premier que j'ai, moi, là-dessus, en ouvrant ça, c'est Manuel Urtubiz. Je me dis, mais qui est Manuel Urtubiz? Moi, je ne suis pas tellement du monde des médias. J'écoute pas tellement la télévision. Donc, pour moi, c'est un parfait inconnu. Alors, je suis allé voir sur le web. J'ai dit quand même, je serais pas trop un innocent de moi-même. Et en arrivant sur le web, je tombe sur le site d'un type qui fait un site sur les has-been du Québec.
Ça s'appelle le
son premier has-been qu'il a fait, c'est Manuel Urtubiz. Et là, je me mets à fouiller ça. Je me dis, wow! Donc, ce que je lis dans l'œuvre de Mathieu Dugal, c'est bien sûr la peur. C'est d'abord la peur d'être bypassé, de manquer sa propre évolution Twitter et d'être consommé comme tous les autres sont consommés, c'est-à-dire que ça passe rapidement. Donc, il y a une lutte contre l'éphémérité. Il n'y a pas l'affirmation d'une personne plus que d'une autre. Et il y a là quelque chose qui est probablement dur. J'ai d'autres animateurs ici autour de moi. Donc, des gens qui font des médias se disent « Wow, ça va vite. Il y en a qui tiennent la pole position puis il y en a qui disparaissent. » De la même manière que la bouffe. Donc, on est dans un univers de consommation. Et la consommation ici, elle est faite par des collages multiples. Donc, une image rapide qui scintille, qui passe rapidement, et oups, c'est fini. Twitter, le mot Twitter vient donner, je pense, le mot clé de cette œuvre-là, parce que Twitter, on connaît à la fois son éphémérité puis aussi sa brièveté.
Wow, je pensais jamais créer ça, moi. Mais c'est quelque chose, hein, quand on feuillette ces revues-là, Alain Martin, c'est ce dont on se rend compte aussi, c'est parce que moi je me demandais quelles sont les vedettes qui n'y sont plus. Et tout de suite, j'ai pensé à Manuel Urtubiz parce que c'est quelqu'un qui était extrêmement populaire à la fin des années 80, début des années 90. Et là, quand je suis allé sur Twitter dans le moteur de recherche de Twitter, j'ai tapé Manuel Urtubiz et il y a qu'une seule occurrence. Alors, on est parti de quelqu'un qui était partout.
Oui, la vedette des
adolescentes. Vedette était le copain de Patricia Paquin.
Moi,
d'ailleurs, Patricia Paquin a une apparition. Elle est vraiment centrale hein, dans cette œuvre-là. Et il n'existe plus sur les médias sociaux, ou presque plus. Alors, c'est quelqu'un vraiment qui n'est plus là. Il y a une espèce d'ironie aussi dans le fait, parce que c'est une entrée Twitter. Donc, c'est un statut Twitter. Emmanuel Urtubiz a raté sa révolution Twitter.
Mais il y a aussi des in and out permanents, comme je vois M. Michel Louvain en haut.
Oui. Il y a Denise Bombardier aussi
qui revient souvent,
comme des... C'est un pilier, hein, un soutien littéralement.
Oui,
le statut Twitter. En fait, la colonie artistique est là. Il y a même Caroline Néron qui est fantomatique là-dedans, qui est présente, mais de manière presque diaphane. Donc, une espèce de mélange de toutes sortes de choses. J'ai presque honte de regarder mon œuvre actuellement.
Allons.
Écoute, au niveau formel, on pourrait revenir, on pourrait en parler longtemps.
Ouais,
mais dans le fond, c'est un collage, je dirais, simple, mais qui manifeste beaucoup plus l'individu qui l'a fait lui-même qu'une préoccupation purement esthétique ou formelle ou etc. Donc, ça vient vraiment d'une préoccupation, je dirais, d'usage d'un outil qui est relativement simple parce que le collage est à portée de tout le monde. On n'a pas de soi-même à dessiner, on n'a pas soi-même à créer un son neuf. Par contre, c'est dans la composition et, je dirais, dans l'espace narratif qu'il va se développer la valeur du collage lui-même. Et dans ce cas-ci, comme je disais, Monsieur Mathieu Dugal parle très bien de lui-même.
Eh bien, Alain Martin Richard, merci beaucoup pour cette critique. Mathieu Dugal,
merci de l'invitation.
C'est
un grand plaisir. Merci de l'invitation. Puis merci Alain. Ça fait vraiment du bien à l'ego.
Puis nous, tout le monde, on se revoit vendredi à 18h pour le vernissage des ratés sympathiques.
Oui,
et d'ici là, on s'en va en pause audio. On écoute Florida Equals Dead sur les ondes de CKRL.
Merci.
Wow, this is fun. Where'd we get it?
It's from the new refrigerator. Want to help me make it into a fort?
A fort? Nah. I want to make it into a truck.
I know. Let's do something really different.
Yeah, that's a great idea. Let's get to work.
I'll get some stuff so we can fix it up.
What do we need aluminum foil for?
That's our heat shield. Where's the paste?
What's this going to be?
On vient d'entendre un extrait de l'album Tape Made of Tape. C'était la pièce Side B Part 1, hein, aussi simplement que ça. C'était une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez d'ailleurs trouver les liens pour le téléchargement, pour la revue de presse, pour les communiqués, pour l'émission en balado-diffusion sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, ben, si vous venez nous aimer sur Facebook, ben, vous serez au courant de nos menus et etc. Donc voilà, ma petite plug, elle est faite et maintenant j'accueille Fanny Hénon-Lévy. Bonjour.
Salut Julie.
Ça va bien?
Oui, et toi?
Oui. T'es allée au Périscope dernièrement, la semaine dernière?
J'ai été voir une œuvre qui est quelque chose, hein, de l'orchestre en orchestre. Le titre, c'est Kurt Weill, Cabaret, Brise-Jour et autres manivelles. Ça en dit long sur le contenu.
Ouais, hein.
Et ben, je pense que tu l'as vu aussi, le show. C'est un spectacle qui est très chargé, qui est à la fois performatif. Donc là, c'est vraiment, pour moi, le mot clé, la performance. On est entre le cinéma muet et l'expressionnisme et le cabaret et le cabinet de curiosité. On est vraiment à la lisière de tout ça. Le cabinet de curiosité, vous arrivez dans la salle, on a déjà envie de monter sur scène pour voir toutes les bric-à-brac.
Ben oui, parce que leurs instruments sont des curiosités.
Les instruments, tout le décor, toute l'ambiance qui est créée, arrivée sur place. On est déjà baigné dans une espèce de musique récurrente, un peu rétro. Enfin, c'est pas un peu, c'est carrément rétro, des années entre guerres, entre deux guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, Kurt Weill, qui est un compositeur de ces années-là, de début guerre, après guerre, qui était un compositeur d'origine allemande, qui a beaucoup voyagé, un peu malgré lui, parce que son œuvre a été autodafé en Allemagne dans les années 30. Donc,
on sait qu'ils ont fait ça avec beaucoup d'artistes.
Avec beaucoup d'artistes. Puis lui, en plus, avait pas de chance, il était juif, en plus. Donc, ça a pas joué en sa faveur. Puis son œuvre a été considérée comme dégénérée. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je vais faire un lien un peu plus tard avec l'expressionnisme allemand, parce que c'était un art et un mouvement qui produisait des œuvres considérées comme dégénérées. On est projeté dans ce spectacle au milieu de tableaux successifs. À chaque fois, on a des tableaux, des scènes qui se succèdent.
Hein.
Exactement. À chaque nouveau morceau de musique, on est projeté dans un nouveau tableau, avec un ensemble, moi, qui m'a fait penser à un assemblage de Rauschenberg, où il y a du mouvement, de la couleur, toutes sortes de matériaux, toutes sortes de mise en scène, mais qui est quand même très bien pensée, qui est bien articulée, qui joue avec l'espace autant à l'horizontale qu'à la verticale. J'ai trouvé très intéressant ce rapport à la verticalité et à différents niveaux. Une performance qui est à la fois en retenue, avec des scènes qui sont étouffées, on est à la fois entre le débridé, le décalé, le primitif et la retenue. Toujours, il y a comme quelque chose qui nous retient en permanence. La lumière qui est d'un jaune, une variation de jaune vieilli par le temps, et qui nous projette encore plus dans cet univers entre deux guerres. Et puis cette volonté aussi de dire des choses, d'aller secouer un peu les ce qui se passe dans la société, et c'est d'ailleurs pour ça, donc j'y reviens, pour ça que je fais le lien avec l'expressionnisme allemand, mais surtout l'expressionnisme beaucoup plus largement, c'est ça, qui naît donc début du 20e, et qui est vraiment un art qui exprime la névrose individuelle, qui met beaucoup plus l'accent et l'emphase sur une conscience révoltée face au malaise social et économique, qui était vraiment le cas à l'époque, mais c'est tellement d'actualité. Dire cette pièce-là, on la voit aujourd'hui. Oui, on est projeté dans le temps, mais à la fois, on s'identifie totalement
à ce qu'ils
ont à dire, à ce qu'ils nous donnent à voir. Évidemment, il y a la machine qui est au cœur de tout ce processus-là. La machine, autant l'instrument de musique, mais l'instrumentalisation et le corps machine aussi.
Ouais.
Le corps qui est utilisé à plusieurs reprises comme une machine à son.
Ah
une
oui,
machine à son.
quand ils font brasser la chanteuse.
Ils font brasser la chanteuse.
Vibrations, puis ils la font tourner.
Bah, il y a plein de moments je vous conseille vivement d'aller voir ce spectacle-là. C'est vraiment un incontournable de la saison. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est une expérience à vivre. J'ai peur, comme peur de donner trop de détails, mais c'est vrai que un moment, on a une scène qui est extraordinaire. Un des comédiens qui est debout, torse nu, puis il y a un autre qui est derrière, puis qui le fait rire. Du coup, ça crée une espèce de distorsion dans sa façon de chanter. Puis à chaque soir, certainement, il y a une variation à cette distorsion-là.
Oui.
Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'aller chercher l'instrument de musique jusque dans le corps humain, parce que nous-mêmes, on est une musique. Et dans notre façon de bouger, dans notre façon de parler, dans notre voilà, dans notre façon de nous exprimer, on est déjà musique. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, ce rapport à la musique qui est lui aussi déjà aux limites des arts visuels. Le côté dissonant de la musique elle-même et va jouer dans la cour des arts visuels. Là, on parle du physique, mais même si on ferme les yeux, on a vraiment cette dimension là.
Ben oui, parce que tu sais, on dit l'art sonore est un domaine des arts visuels, puisque l'orchestre d'un orchestre fait, c'est pas tout à fait de l'art sonore, mais il y a quand même cette idée d'expérimentation, de création de ses propres instruments, etc.
Oui, tout à fait. Quoi vous dire d'autre? On peut dans l'expressionnisme aller voir un moment, il y a une scène très forte, notamment la dernière. J'ai plongé dans un des tableaux de Munch. C'est vraiment à chaque fois on a des tableaux. J'avais comme des Kokoschka, des Schiele, j'en ai déjà parlé à cette émission, ouais. Des Gonschiele, mais là on est vraiment dans cette espèce de très saccadé, le côté un peu archaïque aussi des instruments eux-mêmes qui sont comme des bouts de trucs assemblés ensemble qui font du bruit qu'on est capable de faire nous mais que d'invention penser, c'est ça que c'est d'invention ça. Que d'inventivité.
Ouais, moi ça m'a excusez l'expression, mais ça m'a flabbergasté là à chaque fois que je les vois. C'était pas la première fois, mais là dans ce contexte là je trouvais vraiment qu'ils poussaient encore plus loin. Puis je me disais, comment ils font? Ils doivent constamment être en train de penser à ça.
Mais je pense qu'ils jouent tout le temps. Il y a une ça, notion, hein? Du jeu. C'est ça que j'ai trouvé fascinant aussi dans ce spectacle là, c'est que à la fois il y a comme une ambiance un peu marasme, mais il y a l'imprévisible, il y a la fantaisie, il y a quelque chose de gai, parce que bon, on sur scène aucune expression, il y a une volonté d'avoir comme ça un visage avec les cernes qui sont bien soulignés, le trait noir, le rapport du rouge, du noir, encore une fois, un référent à l'expressionnisme. Il y a vraiment plein de petites touches comme ça, colorées, qui sont références à la peinture et au mouvement de cette époque-là, et de l'univers de Kurt Weill, évidemment. Et puis, à ces voyages, on vogue entre l'Europe, la France, Paris, New York, des petites touches de comédie musicale. Parfois, on se retrouve projeté à New York, on dit, ben voyons donc, c'est quoi le rapport entre Kurt Weill, qu'on s'attend à une sonorité allemande de début à la fin, alors que pas du tout. Kurt Weill, ça a été un des grands compositeurs de Broadway, qui a écrit des pièces quand même majeures, qui ont eu un énorme succès à Broadway.
Il a travaillé avec Bertolt Brecht.
Il a travaillé avec Bertolt Brecht en France, en Allemagne aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui a été quand même très polyvalent dans son écriture. Et cette polyvalence-là, on la retrouve nettement dans ce spectacle-là. Donc, un conseil, allez voir l'orchestre d'un orchestre au Périscope jusqu'au 28. Oui. Avril.
Vous voyez pas les étoiles dans les yeux de Fanny et non Lévi, mais moi je les vois et je vous dis, allez-y, j'ai vu aussi le spectacle et ça vaut vraiment, mais vraiment le détour, surtout que c'est la dernière là, du Périscope pour la saison. Mais Fanny et non Lévi, merci beaucoup.
Merci à toi Julie, bientôt.
Puis on s'en va en courte pause audio, on écoute Side B Part 2 sur les ondes de CKRL. Voilà, c'est la fin du quatrième extrait de l'album Tape Made of Tapes. C'était Florida Equals Death, une suggestion de Simon Roy. Et ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission. En fait, la dernière émission de la saison officielle de l'aérospatiale, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on prend une pause. Puis, à partir de samedi, le 5 mai, je serai à Espace Québec pour animer l'émission en direct de la manif qui sera consacrée exclusivement à la manif d'Arcis et aux activités satellites qui entourent cette dite manif. D'ailleurs, toute la ville de Québec va vibrer dans l'ambiance des machines de la manif d'Arcis. Donc, ce sera le cas donc pour tout le mois de mai, donc le 5, le 12, le 19, le 26 mai, puis le 2 juin. Mais quand même, je serai de retour le mardi après le 5 mai. J'ai pas noté la date, mais je vous présenterai donc des bons moments d'entrevue qui auront été réalisés le samedi pendant l'émission spéciale sur la manif. Parallèlement, ben vous savez, ça commence éminemment, c'est pas en fin de semaine, mais l'autre, il reste quelques petites choses quand même à voir. C'est pas tout qui est en installation. Et notamment, il y a une conférence jeudi 26 avril à 19h. L'Association des céramistes de Québec présente une conférence causerie d'Amélie Proulx au centre Lucien Borne. Puis vendredi 27 avril à 17h à l'établi. Il y a le vernissage des Salons de l'Alternative de Québec, quatrième édition qui aura lieu. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de ckrl.qc.ca pour trouver vos émissions favorites en balado-diffusion ou sur l'aérospatiale.wordpress.com. Je remercie Jacques Gignac et je vous laisse en compagnie de Gilles Chaumel avec Folk d'Amérique.